Alors, on va lire une parabole dans Luc 12, Luc 12, au verset 16. Alors, Luc 12, verset 16 jusqu'au verset 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera recommandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors, on va surtout s'intéresser à la dernière phrase qui a retenu mon attention depuis quelque temps, « et qui n'est pas riche pour Dieu ». On pourrait presque dire tout de suite, donc, qui est pauvre, mais on va un peu développer, bien sûr, ça. Il y a d'autres traductions que j'ai cherchées. Dans Darby, c'est « qui n'est pas riche quant à Dieu ». Et encore une autre traduction qui dit « qui n'est pas riche en Dieu ». La Bible distingue deux sortes de richesses. Et il est essentiel de bien les distinguer. On va les voir. Là, dans cette parabole, on parle des richesses terrestres. Et la conclusion est évidente et fait bien apparaître que celui qui amasse des biens et des trésors sur cette terre, pour lui-même, n'est pas riche aux yeux du Seigneur. La parabole est assez claire. C'est une pensée que tout le monde comprend, qu'on n'apporte pas ses richesses. On dit bien dans la pensée commune, on n'apportera rien, puis c'est bien vrai, c'est une chose évidente. Il y a donc les richesses terrestres, qui sont souvent matérielles, visibles, passagères. Il s'agit bien sûr de l'argent, la prospérité matérielle sous toutes ses formes, mais aussi une longue vie, une bonne santé, une vie paisible, une famille, des enfants, des petits-enfants, des amis, etc., etc. Tout ce qui constitue la vie que nous menons sur cette terre. Dieu n'est pas contre ces choses, n'est pas contre cela. Si on pense à Salomon, Salomon, il avait toutes les richesses, et pourtant, le Seigneur l'a béni beaucoup, il a donné en plus l'intelligence. Mais Salomon avait beaucoup de choses. Donc Dieu n'est pas contre ces choses. D'ailleurs, les bénédictions sont destinées à tous les hommes. La bonté de Dieu s'exerce en tout temps envers tous les hommes. Tous reçoivent à des degrés divers des bénédictions terrestres. Nous-mêmes, nous recevons des bénédictions terrestres. Matthieu 5, verset 45. « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. » Combien bénéficient de tout cela, de tout ce qu'on vient de citer, de tous ces biens terrestres, sans s'en rendre compte, ni remercier le donateur? Ces richesses terrestres doivent être considérées seulement comme une grâce, surtout pour nous qui sommes chrétiens. Il n'y a pas de doute là-dessus, tout est grâce. Chacun doit reconnaître que ce qu'il possède, c'est Dieu qui lui a donné. Si on prend deux exemples qui me sont venus comme ça, si quelqu'un est doté d'une grande capacité intellectuelle ou d'une grande intelligence et qui a pu, par ce fait, faire de belles études, qui a pu avoir un métier rémunérateur, à qui le doit-il ? En dehors de ses efforts pour apprendre, qu'a-t-il fait pour cela ? C'est bien la grâce divine à qui il doit cette situation, sa situation. Ou bien, celui qui est né dans un pays riche, et donc qui ne vit pas dans un pays pauvre, en quoi est-il responsable? Sinon que Dieu a décidé ainsi et qu'il doit remercier pour la providence, qu'il doit remercier la providence pour cela. Alors le livre d'Ecclésiaste est toujours explicite, et on trouve ces deux versets que je vous lis, qui résument un peu ce qui vient d'être dit. Voici ce que j'ai vu, c'est pour un homme une chose bonne est belle de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à cet homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Les biens matériels que nous possédons, quoique nous ayons travaillé pour cela, sont des choses que Dieu nous a données. D'ailleurs, reconnaissons que, au minimum, pour accomplir ce travail, le travail que nous a été donné, eh bien, Dieu nous a donné la santé, il nous a donné le courage, il nous a donné quelques qualités pour réaliser le travail que nous avions à mener. Alors à la fin, on peut toujours dire, et on dira toujours, que tout est grâce. En cherchant des références dans la Bible sur les riches, sur les richesses, je ne pensais pas trouver autant d'avertissements. On trouve énormément d'avertissements. Les richesses sont souvent associées à une problématique. Pourquoi accéder au salut ou pour même poursuivre le Seigneur? Jésus dit des riches de cette terre, dans Luc 6, 24, ce verset est tellement explicite. « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » Et c'est bien vrai, on le constate. Il dit aussi de celui qui est riche et qui veut accéder à la vie éternelle qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Autant dire que ça peut être une grande difficulté pour un croyant d'être riche. Alors, il y avait deux formes de richesse, comme on l'a dit au début, et donc maintenant on va plutôt parler de l'autre facette de la richesse. On revient à cette dernière phrase du texte que nous avons lu, et qui dit « et qui n'est pas riche pour Dieu ». Alors bien sûr, si on sort cette phrase du contexte, c'est-à-dire des richesses terrestres, et qu'on relit cette phrase comme je viens de le faire, on voit cette chose importante, une chose très importante. C'est que Dieu a donc une opinion, une appréciation sur chacun de nous quant à nos richesses spirituelles que nous possédons. En gros, il nous dit, enfin il pense, soit il nous considère comme riches, soit il nous considère comme pauvres. En tout cas, pour cet homme riche des biens terrestres, Jésus l'a jugé et a dit de lui qu'il n'était pas riche à ses yeux. Autrement dit, que son cœur était pauvre quant aux choses de son âme. Les bénédictions spirituelles sont destinées aux croyants si on parle d'une façon générale. Et on peut affirmer que Dieu se plaît à bénir, mais en particulier les croyants. Dans l'Ancien Testament, et spécialement pour le peuple d'Israël, des bénédictions terrestres récompensaient la fidélité envers Dieu. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus parle des bénédictions spirituelles. Il parle d'être riche quant à Dieu, c'est le verset qu'on a pris en référence, riche de trésors dans le ciel, riche de trésors dans nos cœurs qu'il place, qu'il veut placer au-dessus de tout trésor de la terre. Les épîtres réaffirment la même chose. Pour le chrétien, les bénédictions sont avant tout spirituelles. Paul dit « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » C'est Éphésiens 1 que nous connaissons bien, verset 3. Et il détaille ses immenses richesses, le salut, le pardon, le rachat par le sang précieux de Christ, et l'héritage céleste, la présence du Saint-Esprit dans le cœur du croyant, sans compter qu'il y a encore d'autres richesses, la joie qu'on peut ajouter, la paix dans le cœur, lorsqu'on a le bonheur de connaître Jésus. Alors bien sûr, quand on dit ça, je dis tout de suite, on n'est peut-être pas au top de la joie et de la paix, par exemple, mais on a déjà une grande richesse dans le cœur, c'est de savoir où elle se trouve, en Jésus, qui veut les installer solidement en nous. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, plusieurs questions bien naturelles se posent à nous. Rappelons que le Seigneur a une opinion sur nous, sur notre cœur. Est-ce que nous sommes riches aux yeux du Seigneur ? Nous avons du prix à ses yeux, mais ce n'est pas de cela que nous voulons parler ce soir. Est-ce que le Seigneur voit en nous des trésors qu'il a déposés ? Et si nous pouvons répondre oui, même partiellement ou petitement, de quoi sommes-nous riches ? Est-ce que notre cœur est riche de la présence du Seigneur, cette présence qui enrichit ? Peut-être s'est-elle présentée ces derniers temps à nous et nous a fortifiés ? Peut-être est-elle partie ? Et nous sommes appauvris. Nous-mêmes, avons-nous communié avec lui, avec le Seigneur, dans une relation de confiance ? Ça, c'est un trésor. Avons-nous ce trésor là maintenant dans notre cœur ou pas? Où nous sommes-nous égarés de sa présence? Avons-nous saisi quelques richesses de sa parole, de la communion fraternelle, de nos moments de prière? Nous ont-elles enrichi ou au contraire sont-elles fades? Avons-nous le souvenir présent d'une richesse récente que nous venons d'acquérir, venant du Seigneur, quelque chose que nous avons demandé dans notre cœur pour notre avancement, peut-être quelque chose que nous avons demandé et que le Seigneur a bien voulu déposer? Alors chacun peut s'examiner soi-même et dire ce qu'il en est pour son cœur, comment le Seigneur voit son cœur. Y a-t-il des richesses? Sûrement, il y a toujours des richesses. Peut-être sont-elles endormies, peut-être sont-elles éveillées. C'est à souhaiter. Parmi toutes les richesses spirituelles du cœur que nous pouvons posséder, il y en a une qui est essentielle, en tout cas c'est celle que j'avais sur le cœur, et que je voudrais vous faire partager. Alors on va faire un petit focus là-dessus. Alors pour illustrer cette richesse que je vous donnerai après, on va lire Luc 19, c'est l'histoire de Zachée. Luc 19, les versets 1 à 6. Luc 19, 1 à 6. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alors, on pose la même une question comme on a posé tout à l'heure. Quelle est la richesse de Zachée à votre avis? Eh bien, c'est celle d'avoir le désir de voir Jésus. Il est noté qu'il courut donc en avant. Donc il était pressé, il avait un grand désir. On peut toujours dire que c'était de la curiosité. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur qui sait toutes choses avait mis ce désir dans son cœur précisément au moment où il devait passer. Le hasard? Sûrement pas. La providence du Seigneur pour cet homme. La richesse de Zachée, c'est d'avoir désiré de le voir. C'est la grâce de Dieu qui lui a permis de le voir, parce qu'il avait mis en lui ce désir. Le Seigneur l'avait aussi vu, et il lui a dit « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Il y avait donc bien une coïncidence dans leur rencontre. La seule chose que Zachée a fait, c'est de vouloir le voir. C'est tout ce qu'il a fait. Et ce désir qu'il avait, c'est le Seigneur qui l'a posé dans son cœur. C'est d'une des plus grandes richesses des croyants que de désirer voir Jésus et de lui ouvrir son cœur quand il veut entrer. La seule chose que nous devons faire, c'est de vouloir des richesses. Normalement, ce n'est pas dur. Mais attention, Satan est à l'œuvre. Ainsi, le Seigneur déposera des richesses tôt ou tard, si nous lui demandons, si nous le voulons. Et il dira, après, que nous avons un cœur riche. Les richesses désirables, elles sont nombreuses. C'est la patience, c'est la paix, puis c'est tous les fruits de l'esprit qui est dans Galates. Mais le principal qui alimentera toutes les autres, c'est de vouloir aimer Jésus. D'ailleurs, dans les fruits de l'esprit, le premier, c'est l'amour qui entraîne tous les autres. Et bien pour le Seigneur, pour nos cœurs, la principale chose, le principal désir que nous devons avoir, et il faut le demander au Seigneur, c'est d'aimer le Seigneur. Et cela est une grande richesse. Et comme je le disais tout de suite, cela n'est pas naturel. Alors, l'exhortation, c'est de dire « Demandons que l'amour du Seigneur soit en nous et qu'il grandisse. » Ainsi, on aura plus qu'une richesse. On aura un trésor. Le Seigneur nous dit « Demandez et vous recevrez. » Mais il dit bien « Demandez. » Il est impossible pour nous de se remplir de l'amour du Seigneur. En tout cas, c'est moi, mon expérience, sans lui demander. On ne peut pas décréter un jour de dire « Je voudrais t'aimer, Seigneur, et puis ça va se faire. » Non, on a besoin de lui demander parce que ce n'est pas naturel. Notre cœur n'est pas fait pour aimer naturellement le Seigneur. Pourtant, il fait beaucoup de choses. Alors, il faut lui demander. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je finirai en disant, l'Ecclésiaste dit de l'homme qu'il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu l'a rempli de joie dans son cœur. Et nous, on peut changer les termes, mais on peut dire parce que Dieu l'a rempli de l'amour dans son cœur. Paul aux Colossiens dit que la richesse glorieuse, c'est Christ en vous. Alors, demandons plus, demandons de désirer les richesses spirituelles supplémentaires, celles que le Seigneur veut nous remplir, des richesses que nous ne regretterons pas. Mais nous sommes devant le Seigneur pour lui demander cette richesse de le désirer. Voilà ce que je voulais partager avec vous.